Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Imaginez des palmiers, un vent chaud et l'océan à quelque part. Oui, à l'heure où j'enregistre ces quelques mots, je suis au Ghana, en terre africaine. Quel voyage et que de rencontres. Ouf. J'ai vraiment envie que des habitants du continent me racontent leur 2050. Et j'y réfléchis. Dans l'immédiat, j'ai redécouvert ici des lieux, une ambiance et des couleurs qui sont en totale rupture avec mon quotidien de Normande. Tiens, rupture. Allons rencontrer, il est temps, mon invité de cette semaine, Emmanuel Delabranche. Ah mais oui, le précédent épisode, il se terminait sur la musique du groupe suédois Junip. Le morceau, tiré de l'album Feels de 2010, s'intitule Tide. Le futur commence ici et maintenant. Salut Emmanuel.
Salut.
Pour cette conversation, tu as choisi un lieu. Nous sommes dehors, à Rouen, sur une passerelle. En gros, c'est comme si on était en suspension au-dessus de la Seine, quasiment.
Presque.
Tu peux me parler de ce lieu et puis pourquoi tu l'as choisi?
Alors, pourquoi j'ai choisi ce lieu? Parce que toi-même, tu n'as pas été capable de le nommer. Ouais. Tu as dit que c'était une passerelle. Mais en fait, c'est un lieu qui n'a pas de nom. C'est un lieu qui vient d'être construit, on va dire ça comme ça, pas créé, mais construit. On a construit une passerelle, qui n'est pas une passerelle,
bah oui, parce
puisque finalement, elle ne va nulle part.
Elle est sans issue.
Et elle est totalement sans issue. Alors voilà, pourquoi j'ai choisi ce lieu? Parce que pour moi, c'est l'archétype du projet totalement mode, totalement qui plaît à tout le monde. C'est génial, on a construit une passerelle sur les quais à Rouen. Le projet qui ne sert strictement à rien et à personne, si ce n'est une sorte d'image peut-être qui embellit la ville, mais pas pour les gens qui y vivent, uniquement pour ceux qui la regardent. Donc ceux qui ont le temps de se promener, qui prennent le temps de venir ici, mais en fait c'est pas du tout quelque chose qui améliore la qualité de la ville. Et il y a autre chose qui est encore plus fort pour moi, c'est que cette passerelle qui n'est pas une passerelle, je n'ai pas regardé la définition de passerelle, désolé, il faudrait que la passerelle traverse pour que ce soit une passerelle. Ouais. Finalement, c'est une sorte de... comme une jetée, un peu comme à la mer,
oui,
quoi.
Ouais.
On s'avance. Bon, à la mer, quand on s'avance sur une jetée, une digue, on s'avance dans l'eau.
Ouais.
On est entouré d'eau. Ici, on n'est même pas entouré d'eau. Si on se met au bout, on voit qu'on est à l'aplomb du quai, parce qu'il ne pouvait pas aller au-dessus de l'eau. Et en fait, ce n'est pas ça non plus qui est important. Ce qui est important, c'est que cette passerelle qui n'est pas une passerelle révèle une fois de plus une rupture totale entre la rive droite et la rive gauche, mais même en abîme d'une manière extrêmement violente le fait que la rive gauche ne puisse venir qu'au bord du quai et ne traverse même pas la Seine pour accéder à la rive droite.
Ouais. Et que finalement les accès rive gauche et rive droite se font par la voiture,
toujours
et pas pour le piéton, l'homme, la femme.
Voilà, en fait c'est vrai que je voulais choisir ce lieu, donc ça vient après, mais je suis architecte et je voulais choisir ce lieu parce que ce n'est pas un lieu dessiné par un architecte, c'est un lieu dessiné par un paysagiste. Il y a une agence de paysagistes qui a dessiné tout l'aménagement des quais. Il y a une réflexion qui est une réflexion beaucoup plus urbaine qu'architecturale. Aujourd'hui on dit du paysage, mais c'est une réflexion urbaine, c'est une intention urbaine. Et en fait, cette intention est, je trouve, très peu à l'écoute du site qui s'appelle à très grande échelle la métropole, mais qui est pour moi plus une blague, mais là, à l'échelle de la ville, de ce qu'on perçoit juste en tournant comme ça les yeux, une sorte d'enveloppe du point où on est. On se rend compte que cet élément-là est complètement anecdotique. Il fait peut-être une petite mise en scène, mais il révèle, voilà, la distinction entre les deux. Il n'est pas construit par un archi, ça veut dire que je ne mets pas en cause ma profession, mais ce que je veux dire, et j'en parlerai après aussi dans l'histoire de rupture, c'est que finalement il est construit uniquement pour une question politique, uniquement pour une question d'image, et donc il ne fait plus du tout partie ni d'urbanisme, ni d'architecture, ni de paysage. C'est uniquement comme si on avait collé une affiche voilà, politique.
D'accord. Tu l'as dit, tu es architecte, et tu as aussi prononcé deux fois le mot rupture,
ouais,
qui est le mot que tu as choisi. Alors c'est vrai que quand tu m'as annoncé ce mot, au début je suis restée un peu perplexe, parce que c'est vrai que souvent dans les épisodes on parle d'un sujet,
Et pas d'un mot. Et c'est vrai que le mot rupture peut s'incarner dans plein d'aspects de la vie individuelle, collective, dans la ville. Comment tu as choisi ce mot? Quel sens tu lui donnes?
Alors en fait, je ne l'ai pas choisi.
Il s'est imposé à toi.
Il s'est imposé à moi, exactement. Je ne l'ai pas choisi. C'est en lisant un texte sur Jean-Luc Godard, que j'aime beaucoup. C'est en lisant un texte il y a deux semaines sur Jean-Luc Godard qu'il a été question de rupture. Et je me suis posé la question, est-ce que la rupture provient du passé? C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est un fil continu? Il y a une sorte de chronologie. La rupture est dedans. Elle fait partie de cette histoire de continuité, finalement. Est-ce que la rupture est issue de la continuité, ou est-ce que la rupture est réellement quelque chose qui vient rompre, couper, c'est-à-dire qu'elle serait perpendiculaire à la continuité? Donc, je me suis posé cette question-là. Par rapport au cinéma, c'est évident que Godard, par exemple, est un érudit total du cinéma et il a fabriqué une rupture. Son cinéma est une rupture par rapport à ce qui se faisait avant, mais c'est une rupture alors qu'il a une connaissance complète de ce qui s'est fait avant. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient télescoper sans connaître, c'est quelqu'un qui est déjà érudit. Alors dans ce même texte, il était question de Monet. Est-ce que Monet, qui a inventé, quelqu'un d'autre avant a travaillé, mais qui a inventé l'impressionnisme, est-ce que Monet vient rompre ou est-ce qu'il est exactement dans la continuité? Je continue, mais des gens plutôt simples. Mais par exemple, en peinture, c'est plus fort en peinture peut-être qu'en écriture. En peinture, Van Gogh, qui vit tout seul, qui est un type complètement exclu, il a quand même quelqu'un qui lui achète son frère, enfin qui permet de vendre les tableaux. Et donc la question est-ce qu'à nouveau, lui, quand il peint, il a une connaissance de la peinture? Ou est-ce que juste il vient en rupture totale avec la peinture? Est-ce qu'il est en continuité alors que sa peinture est une rupture? Est-ce qu'il est en continuité ou est-ce qu'il vient perpendiculaire?
A priori, plutôt en continuité, parce qu'il avait ses parents, sa famille,
tout à fait.
D'art.
Voilà, donc il y a toujours cette question-là. Ouais. Un jour, je me suis posé la question, et donc ça, en fait, ce mot rupture chez Godard a rappelé, a fait ressurgir d'autres questions. Par exemple, j'avais posé un jour la question à quelqu'un qui s'y connaît très très bien en musique, et j'avais demandé si Berlioz a-t-il fait une école de musique? Wagner a-t-il fait une école de musique? Est-ce que Monet est issu d'une école des beaux-arts? Est-ce que Van Gogh est issu d'une école des beaux-arts? Est-ce que Godard, je connais les réponses, mais est-ce que Godard est issu d'une école d'art, de cinéma, etc.? Et en fait, la question, elle est plus forte en architecture, qui est quand même un domaine dans lequel je baigne. Est-ce que les grands architectes sont issus de ceux qui ont fabriqué une rupture? Est-ce que cette rupture était dans la continuité ou bien est-ce qu'elle était vraiment perpendiculaire? Je trouve que c'est intéressant cette question-là, peut-être qu'elle n'intéresse que moi. Et est-ce que dans ce phénomène de rupture, quel qu'il soit, perpendiculaire ou dans la continuité, est-ce que les gens qui l'ont engendré étaient des gens formés par une école ou pas?
D'accord. Or, si j'essaye de transposer ta réflexion à notre monde, on se pose la question, on parle beaucoup en ce moment de dire nous sommes dans un mouvement de transition, le monde est en transition à cause des questions sociales, économiques, écologiques aussi. Est-ce qu'on peut attendre, espérer, je ne sais pas, une rupture, et qui peut porter cette rupture? Est-ce qu'elle va venir de ceux qui sont formés, peut-être je caricature, des narcs? Ou est-ce que va venir de gens
Ou même des autres, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une école aujourd'hui, une école de commerce, est-ce qu'on le forme? Enfin non, la réponse, on la connaît, je ne peux pas le dire comme ça. Quelqu'un qui fait aujourd'hui une école de commerce est formé pour être dans la continuité exacte de l'école de commerce. Alors que quelqu'un qui va se retrouver dans une situation peut-être pluridisciplinaire dans l'enseignement, ou bien par uniquement un contexte familial, personnel, social, qui va se retrouver avec une multitude de parties autour de lui, risque à un moment d'avoir une idée qui va révolutionner tout, ou qui va changer beaucoup de choses, alors qu'on ne l'aura pas formé pour ça. Est-ce que les gens qu'on forme vont apporter une rupture? Ou est-ce que simplement ils sont là pour faire fonctionner un système et le faire perdurer à mort, quoi. Qu'on en crève tous, ça marche très très bien.
Et donc en posant cette question, on sent ton avis là-dessus.
Oui, voilà, d'où vient la rupture? Je pensais à ça aussi parce que je ne veux pas rentrer, la question politique m'intéresse beaucoup, mais je ne veux pas rentrer dans des sortes d'étiquettes, même si là on est obligé, je trouve qu'on est obligé d'en parler. La question de la rupture m'intéresse aussi par rapport aux élections. Aux élections présidentielles qui se sont passées il n'y a pas longtemps. Moi, ça fait des années et des années que je ne vais plus voter. je me fais incendier par certains qui me disent « t'as pas le droit de pas aller voter et tout, on est en démocratie, je fais ce que je veux ». Si je pense que le système est mauvais, je ne vois pas pourquoi j'irais participer au système, je parle du système électoral, je ne vois pas pourquoi j'irais participer, j'ai quand même le droit de ne pas accepter ce système électoral. Et voter blanc, c'est accepter le système puisqu'on participe au système. Il faut le refuser pleinement ou voilà. Et en fait, je me suis surpris à regarder, parce qu'on m'y a un peu forcé, mais c'est plutôt positif, à regarder le débat qui a eu lieu entre les deux candidats pour le second tour, où j'ai été totalement atterré par l'une des deux parties, et pas subjugué, mais séduit par l'autre partie. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec un candidat qui parlait quand même extrêmement bien, comme on n'en avait plus entendu depuis un certain temps, qui était capable de pas s'énerver. Peut-être que c'était pas top, j'ai lu plein de choses après, mais peut-être que c'était pas très bien, mais franchement, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de rupture. Après, le nom du parti joue de tout ça, mais on n'en parle peut-être pas, mais il y avait une forme de rupture. Et je me suis dit, même s'il est nul demain, même si tout est mauvais, même s'il n'arrive pas à faire une seule chose de ce qu'il dit, la manière dont il a... Peut-être qu'on avait entendu ça un peu avec Mitterrand. Moi, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 12 ans quand Mitterrand a été élu, mais peut-être que finalement, il fabriquait une vraie rupture. Ouais. Quelque part, il annonçait quelque chose. Bon, on ne sait pas si... Enfin, on découvrira au fur et à mesure.
Voilà, c'est ça. Mais, attendons la rentrée.
Voilà, c'est pas, finalement, ce n'était pas ça ma question. C'était finalement, comment est-ce qu'il est capable d'emporter les gens avec lui en fabriquant une rupture. Ouais. Il met tout à plat, il met tout par terre. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, peu importe, c'est ce qu'il annonce, c'est la manière dont il le fait. En effet, il y a des gens de la société civile, c'est ce que je lisais dans les journaux après, qui arrivent dans la vie politique alors qu'ils n'y étaient pas. Ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude de voir des gens qui sont... Alors après, les idées, sont-elles les bonnes, ce qu'il défend, la manière dont il le fait, c'est complètement autre chose. Je trouvais qu'il y avait une forme de rupture. Je pense qu'à partir du moment où il accepte d'être président de la République, la rupture est morte.
Oui, d'accord. Ouais.
Voilà. Je pense que le système était excellent au moment des élections. Ce débat a été plutôt brillant parce qu'elle a été vraiment épouvantable. Ouais, la personne qui était en fait médiocre, quoi. Le père était un parleur terrible et elle était médiocre.
Oui,
c'était... Et donc, il y a quelque chose où il n'avait pas besoin de se battre réellement contre elle. Il avait plutôt besoin de se battre vers nous, pour nous. Mmh. Et je trouve que cette forme de rupture, donc elle devrait se reproduire. Donc, je suis pas du tout... Enfin, peu importe, je ne suis pas pro-Macron, mais je pense que cette forme de rupture, elle doit se reproduire tous les jours. C'est-à-dire qu'on devrait, et c'est vraiment le fond là, du sujet, et je veux bien revenir juste deux secondes sur l'aménagement dans lequel on se trouve. Ça s'appelle un aménagement, en fait. Si on va à Sienne, on se retrouve sur une place. Si on va à Venise, un gros cliché, c'est une ville absolument extraordinaire, c'est sûrement la plus belle ville du monde. Pas par ses touristes, mais par ses espaces. Quand on est à Saint-Marc, on est sur une place. Ouais. Quand on longe un canal ou qu'on traverse un canal, ce sont à chaque fois des lieux spécifiques. Ça a un nom, Soto Portego, tout ça. Ça a un nom à chaque fois, mais on se retrouve dans un lieu. Ici, le fleuve est tellement puissant que tout ça ne sert à rien.
Alors... Ah oui, tout ça ne sert à rien par le fleuve.
Exactement.
Pas, parce que moi, tu vois, j'avais l'impression que tu allais... Enfin, j'imaginais que l'idée, c'était aussi de dire que finalement, dans nos villes ici, on a remplacé des lieux, donc un lieu, ça a une âme, tout ça, par un aménagement.
Alors l'âme, l'âme, j'y crois pas plus que ça. Ce que je crois plus, c'est à l'histoire.
Ouais.
Parce que, bon, ici, il y avait encore les rails, il y avait encore quelques pavés qui traînent, mais je suis pas nostalgique de rien. C'est-à-dire que l'histoire du lieu, c'était tous les fûts de vin qui étaient déposés sur les quais, rive droite essentiellement, devant les armateurs et tout ça, et puis un peu plus loin. Mais en fait, c'est toute l'histoire du lieu qui a depuis très très longtemps disparu. L'histoire en elle-même a disparu. À la reconstruction, l'histoire du lieu, c'est remonter pour que la ville ne soit plus inondable avec la Seine, remonter les quais, et après on redescend de part et d'autre, faire des voies rapides, donc une voie rapide rive droite et puis une voie SNCF rive gauche. Et finalement, c'est couper la ville du fleuve.
Ouais.
Alors qu'avant, la ville débordait, comme à Bordeaux, pas vraiment comme à Paris, mais en tout cas comme à Bordeaux, ça existe encore vraiment, le rapport au fleuve, même s'il y a un boulevard qui passe, vraiment un rapport à l'eau. Donc en effet, la rupture, elle existe, mais elle n'existe pas par rapport au fait de l'âme, ou peut-être même de l'histoire. Elle existe toujours par rapport au fait qu'on se doit de répondre à un contexte économique, sans aucun doute, social, politique. Et en fait, ici, personne n'y répond. On répond uniquement à un contexte touristique, ouais, d'image de ville. Donc, on s'inquiète plus du tout. Peut-être que c'est très bien d'avoir viré tous les quais tels qu'ils étaient. Peut-être que c'était nul. Mm-hmm. Peut-être, je ne sais pas. Je ne me prononce pas. Je ne dis pas non plus que l'aménagement ici est nul. Je dis juste comment je le lis. Je le lis comme étant une volonté politique d'augmenter, de caractériser encore plus la rupture, oui, rive gauche, rive droite. Ouais. Voilà. Mmh. Et je trouve qu'il y avait un projet... Enfin, cette passerelle, c'est presque le déclic, tu l'as dit tout à l'heure. C'est presque le moment où on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui a une bonne idée. Il sait qu'il va falloir créer des passerelles. Mmh. Dans tous les sens du terme, entre, ouais, la rive droite et la rive gauche, et en fait, il rate tout.
Il s'est arrêté là.
Ils mettent des Rosalies comme si on était à la boule. Mm-hmm. Ils mettent des Rosalies, des voitures à pédales, qui font les quais comme ça dans la longueur. On a l'impression qu'on est à la boule, on n'est pas du tout à la boule. Mm-hmm. Allons voir la population qui vit à Rouen, au-delà de la rive droite, un peu privilégiée. On va voir qu'on n'est pas du tout à la boule. Mm-hmm. Donc, on est dans une démarche complètement absurde, qui en plus est une démarche... Donc, ce que je disais tout à l'heure, dans la continuité du fleuve, alors qu'il aurait fallu fabriquer une rupture perpendiculaire,
ouais,
au fleuve.
Bah oui, voilà. Ouais. Donc, une rupture là, qui s'inscrit dans la ville, dans son dessin, dans ses circulations qui séparent, et totalement à l'inverse, des ruptures dans le champ politique, où tu dis, chaque jour, on devrait renouveler ces temps, ces espaces, ces façons de voir les choses pour être dans la rupture par rapport au monde. Et en même temps, tu dis la rupture que portait Macron au moment où il était élu, enfin où il est devenu président, elle était avortée.
Voilà, je ne parle pas des idées, moi. Ouais, ouais. Je ne parle pas du programme politique, je ne parle pas de ça. Tu dois avoir un avis là-dessus, mais je trouverais extrêmement intéressant qu'il n'y ait plus de politiciens de carrière, ou de, je ne sais pas si on dit politicienne, mais en tout cas d'hommes ou femmes politiques de carrière. C'est-à-dire que le fait que ce soit des gens de la société civile, ça s'appelle comme ça. Moi, je n'aurais peut-être pas dit ça, mais c'est comme ça que c'est aujourd'hui formulé. Le fait qu'il y ait des gens, un boucher, ça n'existe quasiment plus. Alors, on va dire un mec qui est chez Paul, quoi. voilà, un mec qui vend du pain chez Paul, qui n'est même, ouais, pas boulanger. Un pharmacien, un docker, un ouvrier de chez Renault, je ne sais pas quoi, un archi... Tout le monde, même à la rigueur un élu local, mm-hmm, à la rigueur je dis, qui y était déjà, quoi. Mais que tout ça fabrique une sorte de conseil où les projets sont débattus, pas dans le participatif où on fait venir tout le monde, mais tout est tellement réglé déjà avant qu'en fait les passages sont très très réduits. Mm-hmm. Pas ça, vraiment amener des gens avec des compétences et des regards différents. Mais pas quelqu'un qui est archi dans le sens de dire tu vas faire le projet d'architecture, ou quelqu'un qui est... je ne sais pas, le commerçant, on ne lui donne pas la question du commerce. C'est au sens de la société. Je pensais que la rupture pouvait arriver. Je pensais que la rupture pouvait arriver comme ça. Ouais. Je pensais qu'on pouvait casser le système en disant on va arriver perpendiculairement parce qu'on n'en veut plus de ce système-là. Et honnêtement, on n'en veut plus depuis très longtemps. Mitterrand, pour moi, même si j'avais 12 ans, c'est l'avènement total. C'est-à-dire c'est le moment où on se dit le pouvoir en France ne peut plus continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire, le mec qui finit par être quasiment roi, alors qu'il s'est défendu, enfin, il s'est battu pour être tout le contraire, on se dit c'est plus possible. Donc il faut arrêter vraiment. Et ce que je ne comprends pas, donc, c'est que, en effet, même la République n'a pas été remise en cause, etc. Donc on évoque toujours plein de choses avant des élections et on laisse tout tomber, ouais, après. Exactement. On rentre dans un système qui est très politique. Et donc la rupture devrait
venir... Très politique, mais aussi, c'est peut-être ça la difficulté, aussi très technocratique.
Je reviens sur la question de la passerelle. Mm-hmm. Ça fait une passerelle à chaque fois. Ouais. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, le vrai projet ici, le vrai projet, c'est pas de construire un bâtiment de la métropole qui est à vomir, de construire un rouleau de papier toilette, en plus qui est une arnaque financière, qui est à vomir aussi.
Démontable.
Démontable, mais qui ne l'est pas non plus. Ouais. Enfin, bon, vraiment, tout ça, ouais, ce sont des arnaques. L'idée, c'est de fabriquer des éléments relais. C'est-à-dire que, moi, je le dis, et donc c'est le moment où jamais, pourquoi est-ce que la métropole, pouvoir politique, la métropole, mm-hmm, pas du tout un pouvoir social, ils ont zéro pouvoir. Pouvoir politique, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas implantés à Saint-Sever, mm-hmm, qui reste encore dans Rouen, dans la ville-centre, dans des immeubles qui sont quasiment tous abandonnés, dans un état pas possible? Pourquoi ils n'ont pas repris des bâtiments existants, quitte à faire vivre ce centre commercial, à faire vivre tout ce qui est autour, où c'est en train de se paupériser à une vitesse, mm-hmm, grand V, pour faire une mixité sociale? Mm-hmm. Là, il y avait un programme social dans leur implantation, alors que là, c'est un programme de roi, c'est une représentation sur,
oui,
la scène.
Ouais, ouais.
Tout Paris fonctionne
c'est
comme
se
ça.
Mettre en scène,
en scène, en dans plus, tous les sens.
Voilà,
et donc, la question qui était pour moi la plus importante, que tu abordais tout à l'heure, c'est la vraie idée, c'est de créer des passerelles. Donc allons-y, faisons des passerelles. Ça, ça coûte une fortune et on n'a pas d'argent. Le jardin en dessous, il y avait le montant, je ne veux même pas en parler, ça coûte une fortune et on n'a pas d'argent. Les gens n'ont pas de boulot aussi. FH qui a réalisé le jardin, bien sûr, a récupéré un supermarché juteux, ils sont très contents, même s'ils ne s'en sortent pas, peut-être, j'en sais rien, je ne vais pas dire qu'ils s'en sortent, ils ont récupéré un gros marché. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on voudrait, moi ce que je voudrais, mais je ne peux pas le dire comme ça, ce que j'aimerais, c'est que finalement la société civile, qui n'est pas au pouvoir, se prenne par la main, au lieu de laisser la police mettre des bornes en béton partout pour empêcher les camions qui fonceraient dans la foule, et de faire de la psychose et de la sécurité, 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 c'est que les gens eux-mêmes prennent des éléments, bloquent par exemple le pont Jeanne d'Arc, en disant, nous, c'est l'élément piéton que l'on veut dans la ville. Les voitures, on n'en veut pas là. Rejetez-les en périphérie. Laissez-nous, s'il vous plaît, ça, mais en fait, qu'on le fasse nous-mêmes.
Il faudrait quand même qu'on essaye de se projeter en 2050, à partir alors, de ce mot de rupture. Quand tu essayes de regarder dans une trentaine d'années, est-ce que c'est la ville ou les villes, l'idée de ville que tu vois différemment à partir d'une rupture sur, je sais pas, sur le fait que les habitants imposent, quelque part, quand tu disais bloquent un pont, imposent le... une ville réinventée, ou est-ce que c'est, tu l'imagines aussi dans le champ politique qu'on a pu évoquer tout à l'heure ?
Alors en fait, je l'imagine dans les deux. Je sais que pas le participatif, mais le collectif reprend du sens. C'est-à-dire qu'on le sait avec différentes manifestations. Parking Day, par exemple, en était une, mais c'est donc quelque chose qui est national. Mais en fait, on sait qu'aujourd'hui, j'aime pas le terme de citoyen, mais... On va dire l'individu, je préfère ce terme un peu plus vague. L'individu, tout le monde est un individu, qu'il soit syrien dormant sur un matelas ou dans sa Mercedes. Ben oui, parce que le syrien, il n'est pas citoyen, lui, pour le coup. Il n'est pas citoyen de la ville, quoi. Il n'habite pas dans la cité. D'ailleurs, il se fait éjecter. Donc, plutôt la question de l'individu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent où les individus essayent d'à nouveau se réunir pour fabriquer des projets. Parfois ils arrivent, il y a des jardinières qui poussent là dans la ville, des jardinières en bois qui poussent un peu partout. Voilà. Peut-être que ça, c'est une toute petite échelle qui n'est pas très intéressante dans le sens qu'elle ne va pas révolutionner la ville. Peut-être que c'est un pas obligé pour aller vers autre chose. Maintenant, c'est sûr qu'il faut, par rapport à cette continuité qui est le droit, qui est la règle, qui est la République, etc., c'est certain qu'il y a des moments où il faut aller taper dedans perpendiculairement, quoi. Il faut rentrer de front dedans. Alors, il y a politiquement, pour 2050, il y a politiquement sans aucun doute, mais il y a aussi le fait, et j'aimais bien cette histoire-là, je suis désolé, je reparle de Macron. Macron, avant qu'il soit là, parlait de déréglementer certaines professions. Je suis architecte, je suis inscrit à l'ordre des architectes pour exercer, je ne peux pas exercer sans être inscrit à l'ordre. Ce truc-là, ça vient de Pétain. Voilà, tous les ordres ont été montés avec Pétain, au moment de l'occupation de la France par l'Allemagne et du gouvernement de Vichy. Finalement, il faudrait casser ce truc-là. C'est-à-dire que la profession réglementée, le fait que moi je sache dessiner un espace, ne veut pas dire que j'ai la bonne idée sur qu'est-ce que doit devenir cet espace. Le politique, pas plus. Donc si on travaillait ensemble, c'est-à-dire que peut-être que... On pourrait, comme ça avait été fait, mais tu as raison, il ne faut pas trop parler de Rouen, mais imaginons qu'on pourrait très bien bloquer un pont parce qu'on est plusieurs à penser que ce pont doit être bloqué. On le bloque pendant une semaine. Réellement, on n'a pas besoin de faire de travaux, ça reste la route, mais on marche dessus. Et puis on est très contents tous, c'est-à-dire beaucoup plus d'individus, à partager ce pont, et puis après on va défendre cette idée-là en disant c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui c'est pas comme ça que la ville évolue.
Donc il y a expérimenter
exactement
à grande échelle.
Ça veut dire aussi enlever le pouvoir, notamment aux archis, c'est-à-dire que quelque part le sachant, ça, c'est le terme, le sachant est quelqu'un de très dangereux. On le sait, les politiques se trompent, les architectes, les médecins se trompent, tout le monde se trompe. Les archis, sous couvert des hommes politiques, on fait construire toutes les ZUP qui sont autour des villes. Aujourd'hui, on les détruit. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas les détruire parce que c'est l'histoire de tous les gens qui ont habité dedans. C'est leur premier logement, c'est leur première salle de bain. C'est la première fois qu'ils regardent dehors dans un logement, etc. Et en même temps, c'est là où les petits-enfants passent en disant « mon père ou mon grand-père habitait là ». Donc nous, on est contents d'avoir encore ça. C'est hyper important. Donc il ne faut pas détruire tout ça. Pour autant, on peut tout reconditionner, on peut tout reprendre. Et je pense que... On est en 2017, dans 3 ans, même dans 5 ans par rapport aux élections présidentielles, ça n'a aucun sens. Le point de vue est beaucoup plus lointain. Par contre, si on n'accepte pas la rupture, et je fais presque quand même un peu de politique dans ce truc-là, si on n'accepte pas la rupture, on ne fera que faire perdurer un système sur lequel on interviendra toujours un petit peu, mais on se fera toujours bouffer.
Et puis finalement, on reviendra, on fera que des petits aménagements.
Mais on n'y arrivera pas du tout, quoi. Parce qu'on se fait détruire. L'échelle des jardinières n'ont aucun rapport avec un aménagement qui coûte des millions d'euros.
Si, oui, voilà. Et si cet espace avait été conçu un peu comme tu le dis, par les habitants, pas avec les habitants,
par les habitants,
se trouve, ce grand espace vert qu'on voit là, ce serait un jardin immense pour le coup.
Voilà, ce qu'on voyait, et c'est la théorie plus de Gilles Clément, paysagiste, mais ce qu'on voyait, c'est qu'au travers de tout ce qui existait ici sur les quais, mais comme dans toutes les villes, les choses poussent. Et Gilles Clément a démontré qu'au début, ce sont des lichens, après des mousses, après des petites plantes, et ça devient en quelques années des arbres. Pas la même, mais en fait, l'un permet à l'autre de se développer à chaque fois. Donc, dans un phénomène de nature ou de retour à la nature, ce qui est en dessous ici est une aberration totale pour moi. On a planté des arbres, on a fait des fosses pour mettre de la terre végétale, on a planté des arbres là où il n'y en avait pas. Il fallait laisser la nature reprendre. Et ça aurait été très beau et les gens auraient pu s'approprier l'espace, se l'approprier.
Oui.
Pas se mettre comme des rangs d'oignons sur des solariums ou venir pique-niquer sur les sols tables qui existent, là où c'est pas agréable de pique-niquer. On aurait envie de se lever dans la végétation et en fait, on ne peut pas le faire. Donc c'est ça, l'idée, c'est vraiment la rupture. Alors elle est plus générale que la question d'urbanisme ou de la ville. C'est vrai qu'y compris dans les diplômes, aujourd'hui, on sait que YouTube est un élément... on sait que la télé est en train de crever face à YouTube, où il y a des gens qui n'ont aucun pouvoir. Pas d'argent, des idées, souvent pas de formation. Ce sont des gens qui ont des sortes d'éveil et qui arrivent à faire des choses où ils se retrouvent avec une quantité de vues, etc. Enfin, après, ça devient du commerce, ce qu'il faudrait absolument aussi redétruire parce que le système est mauvais à chaque fois, parce qu'en fait, c'est YouTube. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a des prises de pouvoir possibles. Mmh. Et en fait, je ne comprends pas que cet élément via le net continue d'exister uniquement sur le net et n'existe pas dans notre monde réel. Voilà, c'est dans l'immatériel et c'est pas dans notre monde réel. Donc on voit tous les gens avec leur téléphone qui regardent plein de choses, qui sont en train de foisonner, qui leur fait... Les algorithmes sont sûrement des mauvais systèmes et en même temps ça nous fait découvrir énormément de choses. Donc voilà, il n'y a plus rien dans les bibliothèques ou dans les librairies parce qu'il n'y a que ce qui se lit ou ce qui se vend. Donc finalement c'est mieux, la Fnac c'est pourri, donc vaut mieux écouter sur Deezer, même si c'est pas parfait, on découvre plus de choses qu'en allant feuilleter les choses à la Fnac. Donc il y a les rayonnages de disques à la Fnac, donc il y a quelque chose comme ça qui est assez fabuleux. Pour autant, ça ne vient pas du tout dans notre monde.
Donc cette rupture vers 2050, ça serait peut-être, j'essaye de reformuler à ma manière, de dire... on a un peu abandonné le réel pour la vie augmentée numérique.
Ouais.
Il faudrait qu'en 2050, tout le foisonnement, les idées qui émergent dans le monde virtuel soient augmentées par le réel et prennent pied, quoi.
Absolument.
Dans nos vies pour repenser le.
On adore les cafés. Pas tous, mais beaucoup aiment, ou certains aiment encore les cafés. Et en fait, ce qu'on aime dans la notion du café, c'est le fait de se retrouver, de payer 1,50€, même 2,50€, peu importe, mais de payer une somme relativement modique et d'échanger, de côtoyer, d'entendre, de voir des gens qui sont différents. Tous les lieux qui se créent aujourd'hui sont des lieux, tous, j'exagère pas, tous, sont des lieux en fait d'entre-soi, c'est-à-dire que c'est un lieu qui correspond à une population végane, maintenant c'est ça, bio, végétarienne, gay, tout ce qu'on veut. À chaque fois, ce sont des univers totalement clos.
Ouais.
Et il faut qu'on explose ça, c'est-à-dire que l'Internet permet le contraire de ça. Et ce qu'on construit dans la ville, ce qu'on construit comme lien de sociabilité, ce sont des lieux totalement identitaires, quoi.
Ouais.
On se ressemble tous dedans. Et donc, c'est là où il faut... Ce lieu-là, par exemple, je ne sais pas vraiment qui y vient, je ne vois pas vraiment non plus ce qu'on peut y faire. Mais ce qui serait
enregistrer des conversations.
Voilà, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit... En fait, qu'on en prenne possession.
Il
ne faut pas venir là pour se mettre sur les tables. Je sais que tu vas dans des espaces de coworking. Il ne faudrait pas venir là pour pique-niquer. Il faudrait venir là pour travailler. C'est-à-dire que finalement, le lieu devrait être non étudié.
Et puis, on devrait le... prendre l'investir. Le parti de le détourner, quoi.
Exactement.
On investit et on détourne.
Exactement.
Pour redonner et se réapproprier.
Exactement. Ouais. C'est pour ça que je voulais venir là aussi, ça me paraissait intéressant. Ce n'est pas du tout fait pour ça, bien sûr. Je ne suis pas un homme politique qui aurait réalisé tout ce qui est derrière, ni un architecte qui aurait réalisé tout ce qui est derrière. Et donc, je trouve que c'est juste prendre possession à un moment d'un lieu, et pour nous deux, pas pour les autres, mais pour nous deux, ce sera le souvenir de ce lieu-là. Ouais. C'est-à-dire que ce lieu, maintenant, existe, pas en tant que passerelle à avorter, mais en tant que lieu d'enregistrement.
C'est ça,
il y a une histoire.
Pour nous, désormais.
Voilà. Mmh. Et c'est comme ça qu'on devrait prendre possession de la ville. Tous les lieux abandonnés, après j'arrête, Philippe Vassé parle, c'est un écrivain, il parle des lieux délaissés, des zones blanches. Mmh. Et en fait, ces zones blanches, on est en train de les construire. La ville ici, ben, la ville, la métropole avec, la ville et la métropole ont construit sous forme d'une piste de bagnole, je ne comprends pas ce que c'est, sous forme de bancs, de jardins, etc. Ils ont construit un délaissé. Le délaissé, c'est tout l'espace qui nous permet à tous d'exister sans qu'on nous dise ce qu'on est, ce qu'il faut faire et à quel moment.
Oui, oui, c'est ça. Des espaces sans destination. Quoi.
Exactement.
Enfin, sans destination.
Sans destination.
Ouais, c'est ça.
Des espaces sans attribution, sans destination. Des espaces délaissés. Et donc, 2050, mais... Il y aura de plus en plus de gens qui auront leur bac, mais en même temps, il y en aura de moins en moins qui feront des études, puisqu'ils ne peuvent plus après le bac. Donc, ils ont le bac, mais ils ne savent pas quoi faire après. Et d'ailleurs, ils n'y arrivent pas. Donc, il y aura de plus en plus de gens qui seront délaissés aussi de la société. Et finalement, je suis enseignant à l'école d'architecture de Normandie, et ceux que je préfère, ils le savent, je peux le dire, ceux que je préfère, ce sont les premières années.
Ouais.
Les étudiants qui arrivent en première année, ils sortent du bac. Ils ont une culture honnêtement très très médiocre, c'est-à-dire qu'ils ont appris 5 fois 14-18, 5 fois la Deuxième Guerre mondiale, mais en ayant toujours un jugement extrêmement violent, et en même temps on voit que tout ça ressort et que tout le monde s'emporte de mieux en mieux presque, puisqu'ils font de plus en plus de voix, c'est que c'est très étonnant. Et en même temps ce sont les gens qui sont les plus à l'écoute. Donc je trouve que, quel que soit le bac dont je me fiche, je trouve qu'il y a une population aujourd'hui jeune, donc ce ne sont pas des individus pour autant, c'est une sorte de population qui existe, qui est prête à tout, qui est extrêmement, après c'est mon vœu, mais qui est extrêmement active, qui se met dans l'Internet immédiatement, qui se met dans tout et n'importe quoi. On leur dit de faire quelque chose, ils y vont, ils découvrent, ils expérimentent. Et en fait, peut-être qu'il faut vraiment compter sur eux et arrêter de compter sur les autres, qui sont formatés, qui ont des emprunts, qui ont absolument tout dans la vie pour les tenir dans tous les sens, quoi. Voilà. La rupture ne peut venir réellement, il faut qu'on arrête, elle peut pas...
Et puis il faudrait que vous puissiez voir ce geste cette perpendiculaire qui vient entrechoquer...
Voilà. La rupture, c'est ça. La rupture, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, alors, je reviens juste, et c'est fini pour moi. la question qui était, finalement, est-ce que quelqu'un que j'aime énormément, Le Corbusier, en tant qu'architecte, est-ce que c'est quelqu'un qui, sans aucun doute, a produit une rupture, mais est-ce qu'il vient d'un courant perpendiculaire ou est-ce qu'il était dans la continuité? Bon, il s'avère que Corbu était dans la continuité, il était protestant, facho parce qu'il était suisse, désolé, mais à l'époque, quand même, ils étaient vraiment fachos, et c'est démontré. Il était issu d'une famille extrêmement cultivée, musicienne. La famille était musicienne, ou en tout cas, il y avait des musiciens, il y avait des écrivains. Lui devient architecte, alors qu'il ne fait pas d'école d'architecture. Donc, c'est là où les deux se mélangent. C'est-à-dire qu'à la fois, il était dans une continuité, et il fait une école d'art, où il apprend à ciseler des montres, et en fait, il vient percuter l'architecture de plein fouet. Et voilà. Cette rupture-là, perpendiculaire, elle démontre, à mon avis, que l'école ne sert à rien. Je suis désolé.
Ouais.
Que l'école ne sert à rien. Elle nous formate et elle nous forme
donc,
pour suivre un courant.
Toi, avec en 2050, tes étudiants, tu dois avoir une espèce de tension entre... En fait, tu veux leur ouvrir les yeux et surtout pas en faire des architectes.
Alors, je veux en faire des architectes, mais au sens général.
Voilà.
C'est-à-dire que je ne veux absolument pas qu'ils deviennent des dessinateurs de projets et même des concepteurs de projets. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que ce soit des gens ouverts. Pour moi, un architecte, c'est quelqu'un d'ouvert. Voilà. C'est quelqu'un qui se met constamment en danger et qui, honnêtement, si on lui laisse le temps, n'aboutit jamais.
Oui, d'accord.
Et c'est notre histoire à nous. C'est-à-dire que le jour où on aboutit, c'est parce qu'on meurt, parce qu'on est tellement... Voilà, on est malade, on est vieux, etc. Mais finalement, ça ne s'arrête jamais. C'est une histoire avec Deleuze, philosophe, mais c'est l'antépénultième. Finalement, Deleuze était alcoolique. Et il dit, le dernier verre, ce n'est jamais le dernier. C'est celui qui va nous amener à celui qu'on pense être le dernier. Et en fait, c'est la boucle. Ça nous permet toujours, toujours d'avancer. On laisse tomber l'alcoolisme, c'est exactement comme ça qu'on devrait être. Notre société fonctionne autrement. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a que des buts.
Ouais.
Que des buts. Mmh. Et à chaque fois, bah, on bute dessus et c'est fini, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, nos enfants, on leur apprend qu'il faut avoir un but. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Mmh. Tu vas acheter une maison ?
Ouais, c'est ça. Alors Emmanuel, j'aimerais que tu formules un vœu pour ce 2050. Alors, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais tu écris, tu es... je ne sais pas si quel mot faut utiliser, on en avait déjà parlé parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps maintenant, mais...
Pas écrivain, mais on dit auteur.
Voilà
on dit auteur. Comme je suis plutôt auteur d'architecture, je suis, voilà, ce serait mieux. Auteur, c'est un assez beau mot, hein, quand même. Ouais. Hein.
Et donc, tu as écrit un vœu.
On peut même y mettre un E si on pense qu'il faut mettre les mots féminins.
Non, les femmes préfèrent autrice. Le mot existait.
D'accord. Alors, j'ai écrit un vœu qui est à ma manière, évidemment. Mm-hmm. Donc, c'est relativement court. Vœu. Promesse faite au ciel par laquelle on s'engage à quelques œuvres non obligées. Les trois premiers sens chez Littré sont religieux. Le quatrième est promesse, qu'on s'est faite à soi-même, résolution ferme qu'on a prise. En cinq, il y a le consentement. En six, le souhait. Et en sept, les désirs amoureux. Je fais vœu de rupture. Rupture. Rompre l'évidence, la certitude, le savoir. Rupture. Reprendre l'expérience, l'expérimentation, la découverte. Jeter tout à terre ou sur la table, mettre à plat. Reprendre, refaire, redire, recommencer. Rupture, rompre, l'équilibre installé. Rompre, les chaînes, les liens, les suites, les parcours. Rupture, rompre, l'infinie certitude qui régit et dirige notre société, nos actes et décisions. Je fais vœu de rupture, comme d'autres, de chasteté. Vœu de danger et non de mise en sécurité. Vœu de peur, de veille, vœu de redevenir des êtres aguets, vœu de redevenir humain.
C'est très bien.
Sans coupure.
Et puis, alors, pour finir, en fait, tu sais, j'ai pensé à toi en lisant une interview de Don DeLillo. Je sais pas si tu
Don DeLillo, ouais.
Tu lis, t'as
j'ai lu, ouais.
Et dans la revue America, c'est une revue de François Bunel. Tu l'as lu ?
Je connais.
Ah, tu connais.
Non, j'ai pas lu le...
Et en fait, j'ai vraiment pensé à toi. Je vais lire cet extrait parce que je vous mettrai le lien, évidemment, vers le site internet d'Emmanuel. Vous pourrez retrouver ses textes, mais aussi ses photographies, qui parlent aussi sur photographie de rupture. Et donc, voilà, j'ai pensé à toi en lisant ça. Mais tout de suite, comme un flash. Il est agréable de penser qu'il pourrait exister un autre niveau de langage auquel aspirer. Mais n'est-ce pas la raison pour laquelle la poésie existe ? C'est ce que font les poètes. Ils nous montrent ce que le langage pourrait devenir si on acceptait de se débarrasser de certaines significations dont on a l'habitude.
Rupture.
Je vous invite donc à aller découvrir dès maintenant l'univers d'Emmanuel sur son site internet à peine perdu. Où il invente aussi en mots et en photographie un autre monde. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour votre nouveau shoot de futur. D'ici là, je compte sur vous, oui, vraiment, pour faire vivre #2050 le podcast en imaginant à votre tour cet horizon, seul ou à plusieurs, et aussi en le partageant autour de vous. Et continuez à vous abonner sur iTunes, SoundCloud et Deezer. Allez, revenons au présent, mais surtout, soyons toujours curieux.